I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
D'un point de vue intérêt pédagogique, moi la création d'entreprise je la vois comme quelque chose de global, j'avais envie de proposer une expérience globale, une communauté aussi, puisque quand on crée son entreprise on se sent un peu, souvent on se sent un peu seul, mais en fait il y a plein de choses à voir quand tu crées ton entreprise, donc j'avais vraiment envie d'enseigner plein de choses sans que ce soit trop, mais vraiment d'enseigner tous les aspects de la création d'entreprise plutôt que me concentrer sur une formation, puis sur ça, etc. Moi je voulais vraiment créer une expérience globale et surtout créer une communauté.
Je m'appelle Safia et j'ai une passion pour l'entrepreneuriat. Ma mission avec ce podcast, c'est de vous aider à vous lancer et avancer dans cette belle aventure à la fois de vie et professionnelle. Je suis une ancienne juriste qui vit aujourd'hui de son activité en ligne et qui tient à aborder les bons et les mauvais côtés de l'entrepreneuriat sans filtre. J'ai créé Build Yourself pour vous partager des conseils et des stratégies faciles à mettre en place qui vous aideront à reprendre le contrôle de votre vie et à faire de vos projets une réalité. Mes épisodes sont un peu comme une conversation avec une copine qui vous partage une dose de motivation et qui va vous aider à faire la différence. Prenez un thé ou un café, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. J'ai créé ma micro-entreprise en septembre 2017. J'ai l'impression que c'était il y a 10 ans alors que c'était juste il y a 3 ans. À cette époque-là, je gagnais déjà de l'argent avec mon blog depuis le début de l'année 2017. Mais c'est vrai que j'avais un peu peur de créer une entreprise. Je savais pas ce que ça impliquait, si j'en étais capable, quelles étaient les démarches, les obligations, etc. Donc à la base, j'avais décidé d'opter pour du portage salarial. Très rapidement, je me suis rendu compte que le portage salarial ne me convenait pas et qu'on me prélevait trop de choses, qu'au final, j'avais pas le sentiment en fait de profiter de l'argent que j'avais durement gagné grâce à mon site et grâce à toute l'énergie que j'avais mis dedans. Donc, arrivé septembre, je me suis dit « c'est bon, lance-toi ». Donc, j'ai créé ma micro-entreprise et c'est vrai que j'ai eu du mal à trouver des informations sur Internet. Parce qu'elles étaient souvent dépassées, en fait elles dataient de 2012-2013, donc forcément elles n'étaient pas à jour, vu que la micro-entreprise c'est un statut qui a pas mal évolué ces dernières années, donc faut quand même rester au courant, et c'est vrai que quand je trouvais des infos, j'arrivais pas tellement à les comprendre, je vais pas vous mentir, parfois c'était un peu compliqué, je savais pas si ça me concernait, etc. J'avais plein de questions sur le régime fiscal, le régime social, sur les déclarations, sur ce que je devais déclarer, parce que la vente de formation en ligne, est-ce que c'est de la vente de marchandises? Est-ce que c'est de la prestation de service? La fameuse question que tout le monde se pose. Bref, j'avais un tas de questions et c'est vrai que toutes n'ont pas eu des réponses assez rapidement. J'ai commis des erreurs que j'ai réparées après. Mais c'est vrai que si j'avais pu trouver un contenu directement qui m'aurait tout expliqué et de manière très claire, ça m'aurait clairement arrangé. Et je vous en parle aujourd'hui parce que Maëlan, qui est l'invité du jour, donc Maëlan que vous connaissez peut-être sous le pseudo Rocket Ton Business, réouvre les portes de la Micropreneur Academy. Donc c'est une plateforme communautaire qui est destinée aux personnes qui souhaitent quitter le salariat pour lancer une entreprise ou les personnes qui ont déjà lancé une micro-entreprise tout juste et qui ne savent pas comment faire les choses, qui ont besoin d'être guidées et d'être dans un cadre rassurant. Dans la Micropreneur Academy, on peut trouver plusieurs thématiques. C'est vrai que j'en suis membre, donc j'ai eu le temps de bien parcourir toute la plateforme. Et c'est clairement ce que j'aurais adoré avoir quand je me suis lancée. Donc on a des thématiques comme la création d'entreprise. Donc elle vous aide à créer un bilan de pré-création d'entreprise. Elle vous explique quelles sont les aides que vous pouvez avoir. On parle aussi de mindset, d'offres, etc. Il y a une thématique, un module sur la micro-entreprise. Donc les avantages, les inconvénients, le régime fiscal, le régime social, les obligations, les déclarations. C'est vraiment très complet. Elle aborde également les finances et les tarifs, donc comment est-ce qu'on fixe concrètement un tarif, comment on gère sa facturation, comment on chiffre un devis. Il y a aussi la protection de son business, ce qui est très important et qu'on ne connaît pas forcément. Donc les impayés, les conditions générales de vente, les contrats, etc. C'est abordé dans ce module-là. Et on a également un module organisation, où sont abordés des sujets comme les objectifs, la productivité, les outils en ligne qui vont vous permettre de vous organiser complètement au niveau de votre business. Donc c'est quelque chose de très riche et de très complet, sachant qu'en plus il y a un live questions-réponses par mois et un workshop par mois avec une thématique prédéfinie. Donc la micropreneur est ouverte depuis 3 mois déjà, donc il y a déjà 3 workshops en plus de celui du mois de juin. Donc c'est génial pour apprendre continuellement et surtout à son rythme. Maëlan a même prévu une espèce de feuille de route sur quelle thématique, quelle vidéo, quelle formation commencer, dans quel ordre, pourquoi, etc. Donc en fait, vous êtes accompagné de A à Z, sachant qu'il y a même un groupe de discussion pour les membres. Vous ne serez pas seul. J'adore son concept de Micropreneur Academy et très honnêtement, si j'avais pu l'avoir plus tôt, ça aurait été vraiment génial. Alors si vous voulez découvrir la Micropreneur Academy, eh bien vous retrouverez le lien direct dans les notes de cet épisode sur la plateforme que vous utilisez et également sur mytrendylifestyle.fr. Nous sommes en semaine de lancement jusqu'au 24 juin du coup pour Maëlan. Donc si vous vous inscrivez durant cette période, eh bien vous bénéficiez de 4 bonus. Donc la masterclass gérer son business avec ClickUp. Je vous parle souvent de ClickUp parce que c'est un outil que j'utilise personnellement. La masterclass les clés pour trouver des clients en continu. Une feuille de route PDF avec toutes les étapes et objectifs pour créer et développer son entreprise. Et enfin, pour les personnes qui décident d'opter pour l'abonnement Clarté et Premium, eh bien vous avez le bundle de documents juridiques à compléter. Donc des devis, des factures, des contrats de prestation, des conditions générales de vente et des mentions légales. Voilà. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez en savoir plus, le lien est dans la description de cet épisode ou sur mon site. Maintenant, je vous laisse découvrir l'histoire de Maëlan et tout ce qu'elle a accompli, tout ce qu'elle fait, ses objectifs, ses projets de vie, pourquoi elle a créé la Micropreneur Academy. Vous saurez tout. Bienvenue sur Build Yourself, Maëlan. Je suis contente de t'accueillir aujourd'hui.
Ben, merci de m'avoir invitée, ça me fait très plaisir.
Ben, depuis le temps, je me suis dit fallait qu'on fasse le lien. Tu vois, on a un peu le même parcours. Donc voilà.
Oui, bah c'est vrai, ouais, deux juristes.
Ouais, bah du coup, bah vas-y, explique-nous un peu ce que tu faisais avant et puis du coup, ce que tu fais maintenant.
Ouais, donc moi j'ai un parcours universitaire assez classique, j'ai fait 5 ans de droit. Droit des affaires, ouais. Donc très particulier, droit des affaires, fiscalité. En gros, la fiscalité, c'est le droit des impôts, simplement. Donc beaucoup de chiffres, etc. Ça ressemble pas mal à la compta. Et j'ai commencé ma carrière tout simplement dans des cabinets d'avocats fiscalistes. Et tu sais, on te vend un peu du rêve en fac de droit, on te dit ouais, super, tu vas avoir un super métier, c'est bien de faire du droit, tout le monde te dit ça autour de toi, ouais. Et t'arrives dans le monde du travail et t'es là, waouh. Et en tout cas, moi, ça allait pas du tout avec ma personnalité, ouais. Mon caractère, mes aspirations, etc. Et je pense que j'avais mis un petit peu des écoutilles pendant mon cursus, et c'est vrai que là, quand je suis rentrée dans la vie active, je me suis dit « Ah merde
!» Mais surtout fiscalité, en plus, tu vois, c'est pas le truc le plus fun et le plus simple, tu vois.
Tout le monde me dit ça, ouais. Moi, c'est juste que j'aime bien les chiffres, il y avait pas d'autre raison. C'est vrai qu'il y en a plein qui choisissent ça pour... parce qu'on a en général des bons postes en fiscalité, qu'on travaille pour de grosses entreprises, de gros patrimoines, etc. Moi, c'est juste que j'aimais le côté pratico-pratique du fiscal, je trouve ça hyper concret. Voilà, mais en fait ça a pas suffi, j'aimais bien la matière, et là je me suis dit, donc j'ai commencé à travailler en cabinet d'avocat, je voulais passer le concours d'avocat, donc vraiment j'étais focus, tu vois, je me disais bon, ben voilà, avocate fiscaliste, c'est la voie logique, mais il y avait quelque chose dans ma tête qui me disait, non mais non, genre voilà. Donc je me suis dit, ben qu'est-ce que je vais faire? Alors je vais un petit peu résumer parce que ça a bien pris 6 mois. Pendant mes études, je faisais de la rédaction web juridique, en freelance en fait. Je connaissais pas bien ce monde, enfin je savais qu'on pouvait vivre de la rédaction. Ouais. Moi je faisais un petit peu pendant mes études pour une start-up du droit. Donc concrètement, c'est les start-up qui te permettent de créer sur internet ton entreprise. C'est tout ce qui est dématérialisation des services juridiques, etc. Et voilà, donc l'idée a commencé à cheminer, j'adorais la communication, j'avais un blog voyage à l'époque, je m'étais formée toute seule, tu sais, pendant mes pauses de cabinet, ouais. Je regardais des livres de SEO, je regardais ton blog, du coup c'est marrant de me retrouver dans ton podcast, parce que ouais, ça fait 2-3 ans et j'étais tombée sur tes articles blogging, etc. Et je me disais, ah c'est sympa ce qu'elle fait et tout, et j'ai commencé à me prendre de passion un peu pour tout ça, pour le monde du digital, etc. Et donc du coup, je me suis dit, bon, mais j'ai raccordé les deux, j'aimerais vraiment vivre de ma passion comme ça pour la communication et le digital. Donc qu'est-ce que je fais ? Donc j'avais ça. Et finalement, voilà, je me suis dit, je vais faire une école de communication, etc. Ça, c'était pas clair, j'avais un gros syndrome de l'imposteur parce que j'avais des compétences. Ça faisait 2 ans déjà que j'écrivais, que je faisais la rédaction web. J'avais mon blog voyage, j'avais développé plein de compétences, etc. Et je me suis dit, je vais faire une école de communication. Et puis finalement... Je me suis dit, j'avais 9-10 mois à attendre avant de rentrer en école, et je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que je vais faire? Bon, mais je vais recommencer le freelancing, mais là, à temps complet, je vais essayer d'avoir une petite activité en attendant. Et puis finalement, cette petite activité en attendant, mais c'est devenu mon activité à temps complet, il n'y a plus du tout d'école de communication qui est prévue, etc.
Ouais.
Donc voilà, donc à l'heure actuelle, là je suis freelance rédactrice web juridique et content manager pour des entreprises du droit et du chiffre. Ouais, c'est très précis, donc je suis quand même restée dans mon domaine initial qui était le droit. Donc mes clients, ça peut être des experts comptables, ça peut être des avocats, ça peut être des fintechs, donc des startups de la finance, des legaltech, les startups du droit. Et c'est tout ce qui est stratégie éditoriale, SEO, rédaction de contenu, etc. Tout autour du marketing de contenu. Donc j'ai vraiment réussi à allier les deux. C'est marrant, pourtant je me disais, mais comment je vais passer du droit au digital? Ça me paraît compliqué. Et également j'ai une deuxième activité, donc je fais deux choses vraiment très différentes puisque je fais aussi de la formation et de l'accompagnement pour les créatrices d'entreprises et les jeunes auto-entrepreneurs. Donc ça c'est vraiment une activité distincte. C'est pas du tout du coup la même cible, c'est pas du tout le même genre de contenu, etc. Moi, j'ai vraiment envie d'aider voilà, les femmes à se lancer, les femmes comme toi et moi qui n'étaient pas forcément satisfaites de leur vie d'avant, à se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le business en ligne, etc. En les aidant sur plein de choses, dont l'administratif forcément, puisque c'est quand même mon domaine d'expertise, entre guillemets, mais aussi voilà, sur l'état d'esprit, l'organisation, et puis partager à la fois mon expérience de juriste et d'entrepreneur.
C'est une force.
Voilà. C'est ça. Donc, j'ai créé le blog Rocket Ton Business, donc sur lequel je partage pas mal de contenu toutes les semaines, également sur Instagram. Et j'ai un podcast qui s'appelle Révèle-toi, également sur la création d'entreprise, qui fait vraiment la jonction avec le blog. Et j'ai également un membership, la Micropreneur Academy. Donc, c'est une école en ligne pour aider les personnes à se lancer et à débuter dans l'entrepreneuriat les premiers mois, etc. Donc, c'est vraiment, ça cible vraiment les personnes qui sont encore salariées et qui veulent se lancer. Et également les auto-entrepreneurs qui débutent tout juste, qui arrivent dans un monde un peu inconnu. Et souvent, on n'a pas du tout de repères, on ne sait pas du tout par où commencer. Donc, voilà, les aider pour leurs premiers mois d'activité.
Et ça fait beaucoup de choses. Comment t'arrives à gérer tout ça?
J'ai toujours eu besoin, et les gens souvent, enfin mes potes et tout, ne comprenaient pas souvent. J'ai toujours eu besoin d'avoir plein de trucs en même temps, plein de projets perso, etc. Et c'est comme ça que je m'épanouis. Enfin, ça dépend des personnes. Ouais. Mais moi, j'ai besoin de faire plein de choses, de mener plein de projets, de créer du contenu tout le temps. Tu vois, j'aurais pas pu juste être freelance, faire mes missions freelance. Et le soir, fermer mon ordi, puis voilà, j'avais vraiment envie de créer, de partager, etc. J'adore avoir deux activités, même si c'est compliqué. Ça l'est de plus en plus, surtout que ma deuxième activité se développe de plus en plus. Mais voilà, moi, ça me correspond tout à fait. J'ai une vie bien remplie. Et puis, j'adore ce que je fais, surtout que j'ai tout construit au final sur mesure. Parce que je pensais pas qu'on pouvait, par exemple, vivre de la rédaction web juridique. Je pensais pas qu'on pouvait créer un business en ligne pour aider les femmes à entreprendre, par exemple. Ça, c'est des trucs que je découvre au fur et à mesure et je construis tout ça. Donc, ça me plaît beaucoup.
Je me doute. Tes journées doivent être bien remplies. Est-ce que t'as rencontré des objections par exemple, enfin, surtout au niveau de tes proches, quand t'as décidé finalement de laisser cette sécurité, entre guillemets, et ce job dans la fiscalité pour te lancer dans le digital full-time?
Bah ouais, parce que quand t'annonces à tes proches après 6-7 ans de droit, je me casse, je vais plus être avocate, je veux plus rien faire. En plus, je disais, je ne veux plus faire de droit, je n'en veux plus. Ça me rend malade d'aller en cabinet d'avocat. Et c'est vrai, alors autant mes amis ont compris, en fait, j'ai même été surprise, ils m'ont dit directement, ah non, mais nous on te voit absolument dans le domaine de la communication digitale, on sent que t'aimes ça depuis des années, etc. C'est vrai qu'ils me voyaient bidouiller plein de trucs, ils me voyaient faire mon blog voyage, j'étais toute contente, etc. Ils voyaient que ça me plaisait. Mais c'est vrai qu'au niveau de ma famille, des personnes plus âgées aussi que j'ai dans mes proches, tu vois, 40, 50, 60 ans, ils comprennent pas trop qu'on puisse, surtout les droits, c'est quand même un domaine d'études qui est assez valorisé, etc. On dit, oh là là, elle fait du droit, elle veut devenir avocate, etc. Donc, dans l'imaginaire des gens, on se dit, mais pourquoi elle part après ce Master 2, elle préparait le concours d'avocat, pourquoi elle s'en va? Donc, c'est vrai qu'il y a eu de la réticence, mais c'était surtout de la peur. C'était, enfin, oui. C'est resté bienveillant, en oui. fait. C'était surtout de la peur pour moi, de l'appréhension. Il connaissait pas ce domaine-là, il se dit mais où elle va quoi, il savait pas où j'allais quoi. Donc effectivement, c'est un peu compliqué quand on se lance, on a besoin de soutien, donc c'est on aimerait que tout le monde nous dise allez fonce c'est tout. Et c'est vrai qu'on souvent rencontre quelques réticences de personnes qui comprennent pas forcément qu'on quitte comme ça un job. J'allais pas dire un job stable parce que dans les avocats on ne sont pas salariés etc. Mais voilà, quand même une carrière assez stable. Mais ça s'est bien passé au final. Ouais, et là, ils me soutiennent entièrement. Donc,
Je pense que c'est ça. Il faut juste éduquer, entre guillemets, expliquer comment ça se passe et tu vois, être assez clair. Parce que c'est, si nos proches sont inquiets, c'est parce que c'est flou et ils connaissent pas du tout, en fait.
C'est ça. Faut pas se braquer. Faut essayer de bien leur expliquer. Bon, il y en a, tu peux pas vraiment leur expliquer. Ils sont très fermés. Mais il faut se dire, bon, ben voilà, ils verront. Moi, je fais ma vie. Il faut surtout pas s'arrêter à ça. Je parle souvent à des entrepreneurs, enfin, des jeunes créatrices d'entreprises qui me disent, moi, ça a failli faire mourir mon projet. Enfin,
ah oui,
elles me disent, moi, j'ai failli écouter toutes ces voix-là qui me disaient, non, mais t'es folle de faire ça, etc. Et elles m'ont dit qu'elles ont vraiment douté, qu'elles ont failli abandonner leur projet, quoi, parce que tout le monde leur disait, enfin,
ouais,
t'as un CDI, non, mais ça va pas à la tête. Enfin,
ouais, voilà. J'imagine.
Je pense qu'il y en a plein qu'osent pas partir de leur emploi à cause de ça.
C'est certain, c'est certain.
Ouais, mais de moins en moins quand même, parce qu'on commence à mieux connaître l'entrepreneuriat, il y a de plus en plus de freelance et tout, mais bon, on voit quand même que quand on en parle autour de nous, les gens disent « Ah, t'es à ton compte, tu travailles à la maison, c'est cool ça
!» En général, ça fait rêver, tu vois, alors c'est pas aussi glamour qu'on l'imagine, hein, mais...
Ouais, c'est ça.
Ça fait toujours rêver.
Tout à fait.
Est-ce que tu as eu des peurs ou des incertitudes quand tu t'es dit « je vais me lancer à mon compte et je quitte tout, je me lance dans cette nouvelle carrière et je compte sur moi et je lance tous mes projets, tout ce que j'ai en tête ?»
Je suis pas de nature anxieuse. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment la stabilité, etc., qu'on en a besoin. Moi, j'avais rien à perdre. Alors, je me lançais comme ça, sans, j'avais aucune aide, rien du tout. Donc, c'était un peu ça passe ou ça casse. Je me donnais 6 mois, 1 an. Enfin, de toute façon, c'était temporaire. Je devais rentrer en école après de communication. Oui. Donc, j'avais pas prévu tout ça déjà. Donc, c'est vrai que ces questions-là se sont pas posées. Mais j'avais vraiment envie de tenter. En fait, moi, je suis du genre à me dire, on n'a qu'une vie, il faut la tenter, parce que sinon, je saurais jamais. Je me voyais, enfin, je me dis, dans 10 ans, je serai encore sur la même chaise à faire mes tableurs Excel là pour les clients dans les cabinets. Enfin, c'est pas la vie que je veux. Donc, je me suis dit, bon, je fonce, voilà, je tente, et puis on verra bien.
Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis que t'es entrepreneur, que ce soit au niveau perso ou au niveau pro? Est-ce qu'il y a eu des changements dans ta vie, au niveau de toi-même aussi? Depuis que tu as fait cette transition.
Ouais, c'est fou ce qu'on apprend sur nous quand on crée son entreprise. On se découvre, parce qu'en fait on est seul à mener la barque, donc on se découvre des compétences, on se découvre des facultés, on se découvre un caractère, etc. Moi je me suis rendu compte déjà que ça collait totalement à mon caractère, assez indépendant, assez fonceur. J'ai du mal aussi avec les contraintes, quand on me dit quoi faire, etc. Ça j'avais du mal aussi, j'en fais qu'à ma tête souvent. Au niveau de la vie personnelle, ça a eu un impact énorme parce que j'allais au boulot le matin avant avec pas la boule au ventre, mais j'étais pas... Je me rappelle, des fois j'écoutais tes podcasts, je lisais des... Enfin, tu sais, je lisais beaucoup de blogs sur l'entrepreneuriat, j'écoutais des podcasts et tout. Bon, toi, t'as commencé ton podcast, je venais de quitter mon emploi, mais il y avait une autre vie qui m'appelait, en fait. Tu vois, je sais pas comment dire, mais je regardais par la fenêtre, je me disais, tiens, mais tout ce que je pourrais faire, moi aussi.
Ouais.
Donc, c'est vrai que j'étais pas très bien. Enfin, forcément, tu sais, quand t'es au boulot et que tu rêves d'une autre vie, t'es pas hyper bien. Et ça se répercute forcément quand tu rentres chez toi le soir. Enfin, voilà, mon copain, il voyait que j'étais pas bien. Je rentrais, j'étais un petit peu éteinte. Alors, je précise, c'était pas le bagne non plus, dans mon emploi. C'est juste que j'avais besoin de plus, quoi. J'avais besoin de plus de créativité, plus d'enthousiasme, etc. Ça me plaisait, mais bon, bof. Et voilà, donc sur la vie personnelle, c'est vrai que je me sens beaucoup plus épanouie, je suis contente de me lever le matin, j'ai plein de projets, je me sens... Ouais, tu te sens bien même dans ta vie perso, tout s'accorde quoi, vie pro, vie perso.
Ouais.
Et vie pro, ouais, j'ai appris plein de choses. Regarde là, j'ai lancé mon podcast, j'y connaissais rien, je me disais, oh, je vais jamais lancer un podcast, c'est pas fait pour moi. Là, je commence à mettre un peu à la vidéo, à la formation en ligne, au fait de communiquer sur Instagram, enfin plein de trucs, j'ai appris plein de trucs, j'ai appris énormément de choses sur le marketing. En fait, je suis trop contente au final d'avoir appris tout par moi-même, parce que vraiment, je précise, Enfin, je me suis auto-formée au final dans la communication, enfin sur tous les domaines, et j'adore et je continue tous les mois, et c'est vraiment ça. Et ouais, je me découvre des compétences, etc. Donc c'est cool. Tu vois, je construis tout. Ouais. C'est moi qui construis tout. J'ai les fruits directs de mon travail. Ça change vraiment par rapport au salariat où t'es quand même enfermé c'est un clair. Peu dans ton poste, t'as tes compétences, etc. Alors que là, je peux partir en live, je peux faire tiens, je vais lancer ça. Et ça, c'est cool, quoi.
Ouais, c'est bien d'avoir cette liberté. C'est hyper enrichissant comme expérience.
Ouais, c'est fou. Hein. Puis, alors, c'est hyper fatigant parce que t'as tout à gérer de A à Z. Alors là, j'essaie de plus en plus de me faire aider parce que c'est compliqué. Ouais. Surtout, moi, j'ai plein de projets, donc je voudrais avoir 10 bras. Mais ouais, c'est super enrichissant. Et surtout, t'as les fruits directs de ton travail. Si ça se casse la gueule, bah, c'est toi qui en paye les conséquences. Mais tu vois, des clients satisfaits, etc., tu le vois directement. T'as directement les fruits de ton travail quand tu reçois des messages d'encouragement, des messages de remerciement, etc. Alors que moi, quand j'étais salariée, j'avais la barrière quand même... J'étais un exécutant, donc j'avais pas le contact avec les clients, par exemple, c'était pas très gratifiant, j'avais pas trop de reconnaissance en plus, donc ça c'est quelque chose qui impacte un petit peu le moral. Alors que là, dès que je lance un truc, etc., enfin je sais que je vais avoir les fruits directs ou pas, ou l'échec, mais au moins j'ai ce lien direct entre ce que je fais et les résultats, quoi.
T'arrives à trouver un bon équilibre entre ta vie perso et ta vie pro, parce que quand on est entrepreneur, on adore ce qu'on fait, donc on compte pas. Et généralement, ça peut prendre le dessus, enfin, ça peut dominer complètement notre vie. Est-ce que toi, t'arrives à trouver un équilibre dans tout ça ?
Ouais, c'est assez compliqué. Il faut s'autodiscipliner. Moi, en plus, quand on adore son travail, c'est compliqué de se mettre des limites. J'essaye d'arrêter quand même enfin, je me fixe des heures, même si des fois ça déborde. Bah, par exemple, quand j'ai lancé la Micropreneur Academy, forcément, j'y étais le soir, j'y étais le week-end, etc. J'essaye de me fixer des créneaux horaires pendant lesquels j'arrête, enfin, je travaille, je fais la pause, etc. Par exemple, c'était avant, puisque maintenant, on peut plus sortir, mais j'essayais, par exemple, le sport, je sais pas moi, les déj avec les copines, etc. Je les casais avant, dans mon emploi du temps, et ensuite, je faisais mon emploi du temps en fonction de ça, pour pas, à chaque fois, dire à mes proches, ah ben non, là, je peux pas, j'ai un truc à ranger, j'ai un truc à faire, etc. Donc vraiment, se fixer des créneaux comme ça, des créneaux détente, des créneaux loisirs, etc. Et quand mon copain était salarié, parce qu'il ne l'est plus, il m'a suivi. Quand mon copain était salarié, voilà, ce qui aidait, c'est quand il rentrait à 18-19h le soir, ben, j'arrêtais. Et puis en plus, quand t'es salarié, tu comprends pas forcément qu'on puisse continuer à travailler le soir, etc., qu'on soit à fond vraiment. Donc ça me permettait de me réguler. Là maintenant, il est indépendant, donc là c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'on a chacun nos contraintes, on a chacun nos projets, etc. Mais bon, du coup, c'est pareil, on se motive, on se dit, bon, mais il faut qu'on se réserve également des créneaux. Donc vraiment, voilà, autodiscipline, ouais,
c'est vrai que c'est important. Pourquoi tu as choisi de lancer un membership avec la Micropreneur Academy et pas, tu vois, une formation ou des accompagnements ou des coachings, etc. Pourquoi tu as choisi le membership ?
Alors, pour pas mal de raisons, d'un point de vue intérêt pédagogique, moi, la création d'entreprise, je la vois comme quelque chose de global. J'avais envie de proposer une expérience globale. Une communauté aussi, puisque quand on crée son entreprise, on se sent un peu, souvent on se sent un peu seul. Et donc elles ont accès à tout un panel de formations avec vraiment, c'est guidé, il y a des étapes, etc. C'est pas des formations comme ça balancées au hasard. C'est vraiment un plan d'action à suivre, mais en fait il y a plein de choses à voir quand tu crées ton entreprise. Donc j'avais vraiment envie d'enseigner plein de choses sans que ce soit trop, mais vraiment d'enseigner tous les aspects de la création d'entreprise plutôt que me concentrer sur une formation. Je pense en tout cas que pour mon audience, ça leur a pas forcément aidé d'avoir une formation précise sur ça. Puis sur ça, puis sur ça, etc. Moi, je voulais vraiment créer une expérience globale et surtout créer une communauté, créer un groupe d'entraide. Tu vois, là, c'est un groupe sur Slack dans lequel elles peuvent poser des questions quand elles ont des problèmes avec les premiers clients, des problèmes avec l'URSSAF, par exemple, ou quand elles ont besoin de contacts, etc. Il y a vraiment cette communauté-là et je sais que les filles apprécient. Voilà, j'avais envie de créer quelque chose de global. Et également, moi, d'un point de vue professionnel, organisation, etc., je dépends beaucoup, enfin, mes clients me prennent beaucoup de temps. Et c'est du temps que j'en manque pour faire d'autres choses. Et j'avais vraiment envie de développer quelque chose qui requiert pas vraiment une présence physique que je puisse développer, même si par exemple je pars en vacances, le membership il continue à tourner. Et ça c'est intéressant. Ouais. Le fait d'avoir des revenus réguliers. Par exemple, avec un seul lancement, moi j'ai des revenus réguliers qui vont arriver jusqu'à mars 2021 ou avril 2021. Ce qui me paraît quand même hallucinant. Donc j'arrive à prévoir, tu vois, je sais exactement combien je vais toucher là le mois prochain, et c'est un truc qui tourne, je l'ai lancé. Alors bien sûr, ça prend énormément de temps de créer du contenu, moi je crée du contenu toutes les semaines, je fais 2 lives par mois, etc. Mais ça a un intérêt également sur le plan financier, sur le plan professionnel, j'arrive à décorréler travail, revenu, et le temps que j'y passe en fait. Voilà, donc c'est vraiment, je suis dans cette dynamique-là, de me libérer du temps et d'avoir vraiment un emploi du temps hyper libre et pas d'être vraiment soumise aux horaires des clients comme je faisais beaucoup au début, je travaillais au jour. Donc du coup, de 8h à 18h, j'étais vraiment devant mon ordi à répondre aux clients, etc., être disponible. Là, j'ai vraiment envie d'aménager différemment mon emploi du temps, d'être plus libre, de pouvoir prendre plus de jours off également. Parce que j'ai beaucoup chargé la barque quand j'ai commencé en freelance, j'ai eu beaucoup d'opportunités, c'est super, mais j'ai beaucoup chargé la barque et c'était trop. Donc là, j'ai vraiment envie d'avoir puis des moments simplement pour me former, progresser moi-même, ouais, etc. Quoi. J'adore lire, écouter des podcasts. Donc ça, c'est important aussi de l'inclure dans son emploi du temps.
Complètement. T'as envie de laisser d'arrêter ton activité freelance sur le long terme ou tu penses que tu vas la continuer? Genre, c'est un souhait de te lancer que sur Rocket Ton Business et Micropreneur Academy ou t'aimes bien en fait cette double casquette?
Ah, un peu des deux. Alors, à terme, effectivement, j'ai envie d'arrêter le freelancing, ça c'est sûr. Mais c'est quelque chose qui me plaît quand même et j'aime bien avoir deux activités. J'aime beaucoup ce que je fais avec mes clients, ça me permet d'avoir des projets variés et moi j'ai besoin de variété entre guillemets. Mais ce qui me plaît évidemment le plus, c'est quand même Rocket Ton Business et Micropreneur Academy, puisque j'adore créer du contenu, j'adore les échanges que j'ai avec mon audience, etc., les personnes qui sont l'académie. C'est beaucoup plus gratifiant, je trouve, et j'ai l'impression de beaucoup plus aider que pour mes clients en freelance pour lesquels je gère leur communication. C'est pas du tout le même rapport, etc. Et c'est vrai que, voilà, moi je suis vraiment dans une dynamique, j'ai envie d'aider les personnes à se lancer. Je me base un petit peu sur mon histoire, sur le fait que j'étais pas forcément bien et que là j'ai trouvé quand même l'épanouissement. Alors je dis pas que l'entrepreneuriat c'est la solution à tout, absolument pas. Mais voilà, j'ai envie d'aider les personnes comme moi, en tout cas qui en auraient besoin. Et c'est vraiment ça qui me fait vibrer et j'adore. Enfin, rien que créer du contenu, tu vois, écrire des articles de blog, créer des podcasts et tout, c'est vraiment un truc qui me plaît vraiment. Donc oui, effectivement, à terme, j'aimerais remplacer le freelancing par tout ça.
Combien de temps il s'est passé entre l'idée du membership et le lancement officiel?
Alors, c'est assez clair. Je suis partie en Thaïlande en décembre. Et sur une plage de Thaïlande, j'ai eu cette idée-là. Donc, c'était début décembre, mi-décembre. Oui, j'arrive pas à déconnecter des fois le boulot. Surtout au niveau des idées de contenu et tout, ça fuse. Tu vois, autant mon activité de freelance, j'arrive à laisser de côté. C'est pas mes projets, c'est pas la même chose. Autant avec Rocket Ton Business, etc., je réfléchissais beaucoup. J'avais vraiment envie de créer un produit et c'était pas clair et je sais plus pourquoi. On commence à en parler de plus en plus du membership, mais je sais plus pourquoi. J'ai dû, peut-être lire un article. Et ça faisait plusieurs fois que je voyais ce concept-là de membership. Alors moi, je me renseigne beaucoup au niveau américain, c'est vrai que je suis beaucoup. Les entrepreneurs américains, je sais qu'ils sont pas mal en avance quand même par rapport à nous. Donc voilà. Et là, d'un coup, je sais pas pourquoi, j'ai commencé à vachement me documenter. Je fais, mais oui, c'est ça. J'arrivais pas à savoir, enfin j'avais envie de créer un produit, à l'époque j'avais rien du tout j'avais pas du tout monétisé cette activité-là. Je me disais, qu'est-ce que je peux faire vraiment, un truc qui aide vraiment. Je me dis, une formation en ligne, ouais, mais sur quoi? Enfin ça va être beaucoup trop, enfin ça va pas aller. Coaching, ouais, au début je voulais faire ça, finalement, voilà. Et ça a été vraiment la solution, je me suis dit, putain, mais c'est ça que je vais faire. Et du coup j'ai une révélation sur une plage de Thaïlande, la petite anecdote. Et ensuite, je me suis vachement formée, j'ai suivi un membership sur les memberships, c'est Membership Academy. C'est vachement bien. C'est Mike Morrison et sa femme, je sais plus. Mais en fait, ils ont un membership.
Ah oui, c'est bon, je vois qui c'est.
Ouais. Qui est
Parce qu'en fait, il y a.
Il y a Stu McLaren.
En fait, il y a des références. Voilà, t'as plusieurs références et c'est vrai que eux, j'en ai entendu parler.
Ouais, c'est ça. Et je me suis pas mal documentée. Apparemment, j'ai vu qu'ils avaient un membership hyper complet et c'est vrai. Et du coup, voilà, je me suis inscrite en décembre, encore en Thaïlande. Hein. J'arrête pas. et j'ai suivi ça pendant un mois, deux mois, trois mois. Et je suis encore parce que c'est tellement complet, ça m'a vraiment aidée. Ouais. Et j'ai commencé à créer les contenus en janvier, février. J'ai fait le site moi-même, je suis pas passée par une plateforme, donc ça a pris du temps également. Alors mon copain qui est développeur a pu m'aider un petit peu. Donc ça c'est bien, j'ai pu déléguer ça. Tout ce qui est technique, etc., installer le plugin de membership, etc. Il y a pas mal de choses à savoir au niveau technique, hein, pas qu'au niveau contenu ni marketing, au niveau technique également.
C'est clair.
Et j'ai lancé ça, j'ai lancé le bêta test mi-mars. Et ensuite le membership, j'ai lancé mi-avril. Un petit peu retardé avec cette histoire de coronavirus. Mais donc mi-avril, donc de décembre à avril, j'ai travaillé ça. C'est vachement de travail. Beaucoup, surtout pour créer les premiers contenus, parce que forcément il faut quand même qu'il y ait un minimum de contenu pour qu'un membership tourne. Moi j'avais pas créé encore de formation payante, de contenu payant, donc j'ai tout créé de A à Z, mais là ça tourne, elles ont suffisamment de contenu pour tenir un moment. Moi, je peaufine au fur et à mesure. Et là, c'est simplement entre guillemets. C'est beaucoup de travail, mais c'est de l'entretien. Là, je rajoute des formations régulièrement, des contenus, je fais mes lives, etc. Mais voilà, la machine est lancée.
C'est bien. Et du coup, la micropreneur, c'est ton programme signature. Est-ce que tu as prévu de lancer d'autres choses ou vraiment de te consacrer à celui-là?
Je sais pas encore. Moi, j'adore ne pas prévoir. Je sais pas ce qui arrivera dans un an. J'aimerais vraiment me concentrer à fond sur l'académie. Après, je me réserve le droit de lancer d'autres choses. Ça sera en fonction de mes envies, etc. Là, je tâtonne. Puis de toute façon, je préfère lancer les choses plutôt que me dire « Est-ce que ça va marcher ?» Donc si j'ai une idée, je la lancerai et puis on verra ensuite. Mais vu les premiers retours que j'ai de l'académie, je sens que c'est quelque chose qui répond à un vrai besoin. Donc ça, c'est rassurant. C'est, quand tu lances des produits numériques, tu sais jamais trop si ça va marcher. C'est un petit peu... ça fait peur parfois. Mais là, j'ai la certitude que c'est un produit qui répond à un réel besoin. Donc je vais développer ça à fond. Je crois à fond au business model du membership, de l'abonnement. Donc j'ai envie d'explorer ça à fond et puis de voir ce que l'avenir me réserve. On sait pas. Là, je me réserve le droit de changer d'avis, d'avoir plein d'idées, etc. Et puis ça, c'est cool, quoi. C'est l'avantage d'être à son compte, quand même.
C'est clair, complètement. Parlons un peu de ton podcast Révèle-toi. Pourquoi t'as eu envie de te lancer sur ce format?
Ouais, ça, c'est encore un truc qui n'était pas prévu. moi, j'ai toujours été très très à l'aise avec l'écrit, avec les mots, etc. Donc c'est pour ça, naturellement, j'ai lancé un blog, j'ai commencé à écrire plein plein d'articles. Et au final, je me suis lassée parce que j'écris énormément également pour mes clients. Enfin, c'est fou la quantité de mots, de lignes que j'écris chaque semaine. Et j'ai commencé à un petit peu me lasser. Et en même temps, je commençais à écouter beaucoup de podcasts. Et je trouvais ça hyper sympa comme format. C'est beaucoup plus intime. C'est beaucoup plus engageant, beaucoup plus sympa, beaucoup plus dynamique aussi. Mais je me disais, voilà, moi, je suis pas très à l'aise avec l'oral. Je sais pas si ça va coller. Et puis, j'ai été invitée dans le podcast de Julie du blog Kinoko. Qui se spécialise justement dans la création de podcasts, parce qu'elle a son podcast depuis 2-3 ans. Et j'ai eu des bons retours de la part de mon audience et de son audience. On a parlé des façons de protéger son business en ligne. Et j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, finalement, c'est pas sorcier. J'ai des bons retours, je pensais pas apporter de la valeur à l'oral. Je me dis, quelle est la différence avec l'écrit? Et ça m'a donné envie. C'est vraiment, il suffit des fois d'un petit truc. Et donc voilà, donc j'ai enregistré mon premier podcast avec Julie. Et finalement... Trois semaines après, je l'appelle, je fais ouais, tu pourrais m'aider à lancer mon premier podcast, j'ai vraiment envie, j'avais déjà commandé mon micro et tout. Bon, c'est compliqué quand on connaît rien au monde du podcast de créer son podcast, donc là elle m'a bien aidée et finalement c'est un format avec lequel je m'éclate. C'est vraiment c'est la découverte, quoi. Je trouve ça hyper sympa, j'ai l'impression vraiment de papoter à une copine quand j'enregistre un podcast. Et je sais que ça plaît à mon audience, donc voilà, je suis très contente d'avoir lancé ça, d'avoir testé ça. Comme quoi, des fois, il faut tester, il faut pas avoir d'a priori. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à avoir beaucoup d'a priori. Ça, je sais faire, ça, je suis moins bonne, etc. Et au final, avec ça, avec l'entrepreneuriat, j'apprends qu'au final, rien n'est fixe et que tu peux tout à fait te découvrir des passions, des compétences, etc. Donc voilà.
C'est vrai. Est-ce que tu aurais des petits conseils à donner pour avoir un blog qui soit légal, qui soit en règle avec la loi? Parce que c'est vrai que les gens ne pensent pas au fait que avoir un blog, c'est bien, mais ça, on a aussi quelques obligations.
Alors,
est-ce que tu aurais des petits conseils là-dessus?
Il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui s'en fichent ou qui connaissent pas, et les personnes qui s'inquiètent beaucoup. Et il y a énormément de personnes qui m'écrivent, et limite, ça les bloque avant de lancer leur site de freelance ou leur blog, etc. Elles ont peur, elles se disent, si j'ai pas les mentions légales, moi je vais aller en prison ou je vais avoir un contrôleur SAF ou je sais pas. Donc il faut être entre les deux. C'est bien de les respecter, c'est important, mais on n'ira pas vous chercher des problèmes si votre blog, etc., n'a pas la mention qu'il faut. Alors c'est important, ce que je trouve le plus important, c'est niveau RGPD. C'est pas très compliqué, il faut mettre une bannière cookie. Si vous avez un formulaire de newsletter, il faut une case je donne mon consentement pour recevoir des mails, enfin vous rédigez ça bien. Il faut également que le destinataire de vos mails confirme son adresse mail avant de recevoir les mails. Donc ça, c'est le double opt-in. Mais en général, moi j'utilise ConvertKit, avant j'utilisais MailChimp, en général le logiciel gère ça tout seul, donc c'est lui qui gère. On envoie un mail de confirmation, etc. C'est lui qui gère les abonnés qui sont confirmés et ceux qui sont pas confirmés. Voilà, ça c'est important, RGPD. Après, il y a tout ce qui est mention légale, ça pareil, on s'en fait toute une histoire. Effectivement, c'est bien d'avoir son nom, son prénom, son numéro tiré, le nom de l'hébergeur, ses coordonnées, etc. Mais voilà, c'est pas non plus sorcier. Donc en bas de page, effectivement, c'est bien d'avoir des mentions légales, politique de confidentialité aussi. Ça, c'est pas très grave. On trouve ça sur internet, il y a des modèles, faut faire attention avec quand même, il y a des sites qui sont pas hyper fiables. Mais voilà, il faut relire ce qu'on écrit, bien sûr, on copie-colle pas quelque chose en footer et en voilà sans le.
Ouais, non, pour la petite histoire, il y a. Je sais plus pourquoi, j'ai dû taper mon nom sur Google, j'ai dû avoir un boost d'ego, je ne sais pas. Un jour, j'ai tapé mon nom sur Google et en fait, je suis tombée sur. Il y a un résultat qui est apparu, c'était le site d'un mec qui avait en fait copié mes conditions générales de vente, mais qui du coup n'avait pas modifié, donc c'était mon nom, mes machins et tout. Et donc, du coup, évidemment, je lui ai envoyé un mail, mais comme tu dis. Faites attention, faites pas du copier-coller, quoi.
Oui, il y a également les conditions générales de vente. Effectivement, ça, c'est important si on fait de la vente à distance avec des consommateurs. Ça, c'est obligatoire. C'est un petit peu plus compliqué à faire, les conditions générales de vente. Faut penser à tout. Faut surtout penser au cas où, par exemple, le consommateur va pas être content du produit, va vouloir le renvoyer, également le délai de rétractation, etc. Ça, faut penser aux situations problématiques, faut les prévoir. Là, c'est pareil et c'est encore pire. Il faut pas copier-coller des modèles sur Internet pourris et pas les relire. Et ensuite, ça nous engage, en fait, quand il y a un conflit. Ça nous engage, on est obligé de respecter ce qui est marqué dans les CGV. Donc ça, c'est quand même important. Ouais. Donc RGPD, mention légale, politique de confidentialité qui vont avec le RGPD et CGV.
Ok, super. Est-ce que tu as des petits conseils à donner aux personnes qui veulent lancer un business en ligne, mais tu sais, en toute sérénité, sans stress, sans pression?
Alors, je trouve souvent qu'on se concentre sur des détails. On va se dire, avant de se lancer, on va pas vouloir s'en lancer parce qu'on va se dire ma publication Instagram n'est pas parfaite, mes épingles Pinterest, je ne sais pas en faire, ou je n'ai pas l'article de blog parfait. Et souvent, on pense que je vais donner des conseils hyper précis en juridique ou même en entrepreneuriat en général. Non, moi je dis surtout, lancez-vous et concentrez-vous sur ce qui est fondamental, c'est-à-dire à qui vous adressez, votre cible, votre client idéal, votre persona, vous l'appelez comme vous voulez, votre offre également. Et ça, il faut avoir quelque chose de béton. Il faut absolument comprendre les besoins de son audience, de sa clientèle cible, etc. Faire un produit qui correspond vraiment à ce qu'elle veut, à ce qu'elle recherche, à ses problèmes, etc. Et ensuite, tout ce qui est communication, tout ce qui est même administratif, si vous maîtrisez pas la micro-entreprise de A à Z, c'est pas grave. Vraiment, concentrez-vous sur ça. Donc cible, offre et état d'esprit également. C'est super important de démarrer avec un bon état d'esprit. De pas se dire, oh là là, bon je me lance, mais moi je pense pas que quelqu'un va acheter mon produit, je pense pas que je vais avoir de clients avant 6 mois, etc. Faut vraiment travailler ça. C'est ce qui est syndrome de l'imposteur, croyance limitante et tout. Prendre le temps de s'inspirer, de lire, de faire un travail sur soi-même, faire un bilan de compétences, ça peut être pas mal, de faire un bilan sur toutes ses forces, etc. Se concentrer vraiment sur le positif pour pouvoir se lancer. Il faut vraiment avoir des épaules solides, avoir un bon état d'esprit avant de se lancer, ça c'est vraiment fondamental, bien plus que le design de son blog ou sa première publication Instagram. Et souvent, je vois, vraiment, c'est quelque chose qui revient tout le temps, c'est on se focalise sur des détails au lieu de vraiment se concentrer vraiment sur du travail de fond. Parce que c'est peut-être c'est moins confortable de se concentrer sur les fondamentaux, sur nous, ce qu'on a dans la tête, sur ce qu'on veut proposer et tout. On essaye un petit peu d'évincer cette question en disant « Ouais, on verra ça après », mais ça fait perdre énormément de temps si on ne fait pas ce travail-là. Donc ça, c'est les conseils vraiment que j'aurais à donner.
Ouais, ce sont des bons conseils, je suis totalement d'accord. Quels sont les, puisque tu es quand même spécialisée sur la micro-entreprise, les avantages et les inconvénients de la micro?
Ouais, il y a beaucoup d'avantages à la micro, mais il ne faut pas oublier qu'effectivement, ce n'est pas non plus le Graal. Les avantages, bah, c'est que n'importe qui peut créer son entreprise comme ça dans les 10 minutes. En fait, là, on pourrait très bien écouter ton podcast et se déclarer créer son entreprise. C'est simple, ouais. C'est gratuit. Ça, je le précise, il y a plein de sites qui font croire que t'es sur le bon site. C'est gratuit hein, quand vous êtes sur le vrai site, donc le site de l'URSSAF. C'est rapide. Voilà, tu reçois les papiers. Franchement, il y a un petit formulaire à remplir. Tu reçois les papiers au bout de 3 semaines et c'est bon. C'est joué, donc ça, c'est cool. Les charges sont quand même très faibles, tant au niveau des charges sociales que de l'impôt. Alors, très faible par rapport aux autres formes juridiques.
Oui.
Puisque, bon, effectivement, on a des charges. Par exemple, au service, c'est 22%. On peut quand même bénéficier de l'ACRE, voilà, qui est une aide à la création d'entreprise. Donc voilà, là, c'est les charges qui sont faibles. Et également, il y a très peu d'obligations comptables, très peu d'obligations déclaratives au final. Ça n'a rien à voir avec le fait de gérer une société. C'est vraiment deux choses différentes. Il n'y a pas besoin d'un comptable, par exemple. Il n'y a pas de bilan comptable, de compte de résultat, etc. à faire. Donc c'est vraiment les avantages. C'est que tu payes pas cher en charges. Et puis surtout, si tu n'as pas de revenus, tu ne payes pas d'impôts. Et ça, c'est quand même super intéressant. Ouais. Voilà, c'est vraiment, c'est simple d'utilisation, entre guillemets. Donc ça, c'est un avantage. Mais les inconvénients, c'est d'abord qu'il y a un plafond de chiffre d'affaires. Alors, il a été doublé en 2018, maintenant c'est quand même deux fois plus élevé. 70 000 euros en service et 170 000 euros en vente. Donc pour débuter, ça suffit. Ouais. On peut pas s'associer. Attention aux personnes qui travaillent ensemble et qui sont auto-entrepreneurs, c'est une extrêmement mauvaise idée. Enfin, c'est une très mauvaise idée. Les charges également que tu peux pas déduire. Donc par exemple, si tu gagnes 3 000 euros de chiffre d'affaires et que par contre tu délègues à un freelance et que tu lui, enfin, qui te facture 1 000 euros, eh bien tu vas pas payer tes impôts sur 2 000 euros. Tu pourras pas déduire les 1 000 euros. Tu vas les impayer, tu vas les payer sur 3 000 euros. Donc ça, c'est pas grave au début quand on débute, et encore ça dépend de certaines activités. Par exemple, si tu es coiffeuse et que tu as un loyer à payer en centre-ville, ouais, ben, tu vas payer des impôts sur ton CA, et même si ça part dans le loyer, au final tu peux pas déduire. Ou si tu as un stock, si tu es en activité de vente et que tu as des stocks importants, c'est pareil, tu vas payer de l'impôt alors que voilà, tu as dépensé pas mal en stock. Alors pour compenser, les taux sont beaucoup plus faibles en vente, c'est pour compenser l'achat de stock, mais voilà, faut faire attention avec ça. Mais c'est les questions là qui se posent, surtout si tu veux déléguer ensuite à terme, si tu veux faire des investissements, si tu veux utiliser plein d'outils, etc. Au bout d'un moment, c'est sûr qu'il faudra peut-être changer de statut, il faudra s'interroger. Ouais. Mais je pense que là, les personnes qui nous écoutent et qui veulent créer leur entreprise, en général, la micro-entreprise, c'est quand même la solution la plus idéale. Mais bon, il faut quand même prendre le temps de s'interroger, de regarder bien les inconvénients. Pareil, ça convient pas à tous les types d'activités, il y a des activités qui sont exclues, etc. Donc bien se renseigner, ça peut prendre 2-3 heures, mais au moins être sûr que c'est quelque chose qui est adapté et pas juste foncer et se dire après mince, parce que là, quand on crée une entreprise, on n'a pas forcément le temps non plus d'aller changer de statut, etc. C'est plein de démarches, donc autant commencer avec le bon statut et voilà.
C'est vrai. Est-ce qu'on peut créer une micro-entreprise en France et aller vivre à l'étranger?
Ouais, tout à fait. C'est juste que les impôts seront bien sûr payés en France. Donc, d'accord, voilà, il y a la règle. Souvent, on dit, ouais, il y a la règle des 6 mois, il ne faut pas être plus de 6 mois en France. Et hop, si on est moins de 6 mois en France, on est exonéré d'impôts. Alors non, parce qu'il y a d'autres choses que les impôts regardent. Hein. Les impôts veulent que tu sois domicilié en France, même si tu n'y es pas. Si tu as des biens en France, par exemple, une maison. Si tu as le centre de ton activité économique qui est en France. Donc concrètement, si tu as une entreprise qui est domiciliée en France, tu vas payer des impôts en France. Voilà. Si vraiment tu veux plus être soumis à la fiscalité française, dans ces cas-là, bah, expatrie-toi dans un pays très lointain, crée une entreprise, ouais, de droit étranger et tu seras peut-être pas embêté, mais il faut faire attention avec ça, quoi. On peut avoir des déconvenus et en général, le fisc le voit, hein, quand on n'a pas déclaré ses revenus, ouais, il le voit très vite. Donc c'est, voilà.
Mais je pense que c'est une bonne chose, tu vois, que tu puisses partir et vivre, je sais pas, en Argentine et pourtant avoir ton entreprise en France, parce que c'est rassurant, enfin.
Ouais, si t'es français, c'est rassurant. Bon, après, l'État, ça l'arrange, hein, que... Enfin, oui. Il s'en fiche, en fait, tout simplement, que tu sois à l'étranger. Lui, ce qui l'arrange, c'est de recevoir l'argent. S'il le reçoit, ben, tant mieux, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas mal d'avoir une structure de droit français. On est quand même bien lotis en matière administrative, ouais, même en matière de protection sociale, etc. Même si, quand t'es à l'étranger, ben, du coup, ça marche pas forcément. Mais je veux dire, on a quand même pas mal d'avantages au niveau administratif français. Et puis, le régime de la micro-entreprise, c'est une exclusivité, entre guillemets, française. Par exemple, nos amis, ouais, belges, etc. Moi, j'ai discuté avec une belge l'autre jour. Elle me disait qu'elle était... Bah, déjà, elle était soumise à la TVA directe quand tu commences en Belgique, ah, si, oui, je me trompe pas. Mais il me semble que, voilà, t'es soumise directement à la TVA. Tu dois payer des frais directement, tu dois payer ton comptable, etc. Tu donnes ta 50% de charge. Donc, c'est quand même... C'est pas du tout le même système, quoi. Donc...
Complètement. Bon, tu parlais tout à l'heure de la Thaïlande. Tu t'es expatriée quelques mois à l'étranger. Pourquoi, du coup, avoir pris cette décision? Et combien de temps t'es partie?
Ouais, la Thaïlande, c'était des vacances. Mais d'accord, effectivement, deux semaines après, j'ai refait mes valises pour partir 3 mois à Bali. J'ai toujours aimé les voyages.
Ouais.
Comme toi, je pense. J'ai toujours aimé les voyages. J'ai découvert ça il y a quelques années. Tu sais, quand tu commences à gagner tes premières venues. Et là, tu commences à... Et puis là, je me suis dit, waouh, tout le monde s'offre à moi. Et j'ai beaucoup, beaucoup voyagé. Et je me disais, tu vois, quand j'étais en cabinet, mais je me disais, oh là là, c'est trop dommage, j'aimerais tellement travailler à l'étranger, mais bon, je pourrais jamais, je suis juriste. Tu vois, c'est les croyances limitantes. Et dès que je suis devenue freelance, je me suis dit, bon, ben, super. Déjà, je vais pouvoir voyager. Là, c'était vraiment mon objectif. Mon copain, qui était encore salarié à l'époque, a pu avoir 3 mois de télétravail comme ça, accepté de partir à Bali. Donc ça, c'est énorme.
Ouais.
Finalement, il s'est lancé en freelance parce que voilà, de toute façon, il s'est dit je vais pas partir 3 mois en télétravail pour au final leur dire à la fin que je me lance en freelance. Donc il s'est lancé avant, mais il avait quand même cette opportunité là. Donc là, on voulait absolument partir. On a commencé par partir 3 mois à Bali. 3 mois puisque non, on n'a pas envie de voyager sur le long terme. On aime quand même bien. On est très bien. On habite à Bordeaux. On est très très bien à Bordeaux.
Ouais.
Et c'est quand même bien quand on est entrepreneur. En tout cas pour moi, hein. Je trouve, j'aime bien quand même avoir mon chez moi, mon bureau, mes habitudes, etc. Voyager de temps en temps, et comme on peut partir quand on veut au final, c'est pas embêtant du tout, donc on a vraiment notre pied à terre sur Bordeaux. Et si par exemple on a envie de partir, quand les frontières réouvriront, mais si on a envie de partir du jour au lendemain, on peut le faire. On amène nos clients avec nous, on a une activité qui est 100% digitale, on ne rencontre pas nos clients, donc ça c'est bien. On a choisi Bali, moi j'adore l'Asie. C'est un continent qui m'attire vachement. La vie est pas chère, et ça c'est quand même déterminant quand on s'installe à l'étranger. La vie est pas chère, il y a énormément de digital nomades qui sont en Asie, donc c'est bien pour faire des rencontres, etc. Il y a quand même un écosystème qui est propice à l'entrepreneuriat. Moi je connaissais déjà Bali, j'étais allée en vacances. C'est une belle île. Alors, c'est pas l'eau turquoise. Ouais. Par contre, c'est pas l'eau turquoise qu'on trouve en Thaïlande. Je le précise parce que souvent, il y a des petites surprises en arrivant. Mais c'est une superbe île. Il y a largement de quoi faire, même en restant 3 mois. Et on est très contents, au final, de cette expérience-là. On a dû rentrer plus tôt, puisque pour des raisons de coronavirus, sinon on serait resté coincé. Donc, on est rentré un petit peu plus tôt. Mais on a adoré notre expérience. C'est vraiment une île hyper accueillante. La mentalité, c'est pas du tout comme en France, par exemple. Hein, c'est les gens, par exemple, s'engueulent pas. Tu vois, il y a des accidents tout le temps. Les gens se font des queues de poisson et tout. Mais ils s'insultent pas. Limite, ils se font des petits signes de la main. Ils sont hyper serviables avec les étrangers, etc. Ils sont hyper gentils, hyper... Puis il y a plein d'événements qui sont organisés pour les entrepreneurs. Il y a plein de coworking, il y a plein de cafés. Il y a des freelances partout. Tu te fais pas virer quand tu arrives dans un café avec ton ordi. Enfin, voilà. Et c'est... Ouais, pour les entrepreneurs, c'est super bien Bali. C'est une destination que je recommande beaucoup. Il y en a plusieurs comme ça en Asie. Il y en a en Thaïlande. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont en Thaïlande pour travailler. Mais voilà. C'est pas facile, notamment avec le décalage horaire. C'est pas facile... Mon copain s'est lancé tout juste, du coup il avait beaucoup beaucoup d'appels prospects, mais les appels prospects à 18h en France c'était des appels prospects à 1h du matin chez nous, donc il faut tenir. Mais c'est vrai que nous on a trouvé un rythme, on commençait à travailler à 13-14h, on finissait à minuit, mais mine de rien c'est cool puisque on se levait assez tôt, donc du coup jusqu'à 13h on pouvait faire plein de choses, on visitait, on faisait du sport, on allait dans la piscine, c'est notre vie hein.
J'imagine,
c'est vraiment très différent. Ouais. Et le week-end, on visitait. En plus, tu peux aller à l'autre bout de l'île, tu peux te prendre une super maison, petite chambre dans la nature, ou même vers le volcan, etc. Il y a un volcan. Tu payes 15€ la nuit, tu vois. 15€ la nuit, piscine, petit déjeuner. Du coup, tu peux te faire plein de week-ends partout sur l'île sans forcément y laisser tout ton budget. Donc ça, c'est vraiment cool, quoi.
C'est une expérience que vous allez répéter ?
Ouais. Donc on partira, je pense, par période de 2-3 mois, on aime bien. Ça nous permet de visiter plein de pays différents, de pas trop galérer pour trouver des logements, etc. Bon, nous, on passe par Airbnb, c'est pas forcément la solution la moins chère, mais c'est la solution la plus confortable.
Ouais.
Mais c'est plus facile, d'un point de vue logistique, à organiser, de partir 2-3 mois comme ça. On peut partir au gré des saisons. Tu vois, là, on est parti l'hiver à Bali. Peut-être qu'on voulait au début partir en décembre, là, dans les Philippines. Donc, je suis pas sûre que ça se fasse. Mais tu vois, même, je me disais... j'adore New York, quoi, mais j'y suis allée que l'été. Je me disais, pourquoi on n'irait pas là à New York à Halloween ? Ça peut être sympa. Bah oui, qu'est-ce qui nous retient ? Alors bien sûr, ça c'est un budget, mais on a aucune contrainte finalement, et ça c'est hyper appréciable, quoi.
C'est clair.
Enfin, limite, je regarde la carte. Moi qui adore les voyages, c'est super. Ça, je regarde la carte et je me dis, où c'est que j'irai cette année ? Et ça, c'est quand même vachement cool. En plus, on part en semaine, on part hors vacances, donc c'est moins cher. Donc ça c'est bien, quand on aime les voyages et quand on est à son compte, c'est bien,
c'est clair, c'est hyper pratique, et d'autant plus si ton conjoint est aussi freelance, parce que du coup au moins il n'y a pas de
soucis, beaucoup plus facile, ça c'est sûr. C'est beaucoup plus facile.
Quels sont tes projets à venir?
Mes projets à l'avenir, alors moi je l'ai dit tout à l'heure, j'ai envie vraiment de développer la Micropreneur Academy, j'ai envie de développer Rocket Son Business. Voilà, j'ai vraiment envie de réduire cette activité de freelance pour développer de plus en plus cette activité-là, continuer à créer du contenu, continuer à tester des choses. J'aimerais bien tester le format vidéo également. et je me réserve le droit d'accepter n'importe quelle opportunité au final. Et ce que j'aime bien, c'est justement que je ne sais pas ce qui va arriver dans un an ou dans deux ans ou dans trois ans. Et c'est continuer vraiment à suivre mon instinct, à suivre ce dont j'ai envie, ce qui me fait plaisir. S'il y a quelque chose qui me tente, je me dis bon, je vais lancer. S'il y a un produit qui me tente, je me dis bon, voilà, je vais le lancer. Donc vraiment, j'ai pas de projet précis, mais continuer à créer du contenu qui aide les gens, continuer à aider les gens, continuer à les soutenir, etc. Et voilà, je pense que c'est déjà un beau projet.
Ouais, c'est clair, je suis d'accord. Est-ce que tu aurais un petit conseil, c'est ma question de la fin de chaque interview, est-ce que tu as un petit conseil à donner, que ce soit pro ou perso, aux auditrices de Build Yourself?
Ouais, moi je dirais, faites attention aux croyances que vous mettez dans la tête. Moi je me disais par exemple, bon ben voilà, je suis juriste, voilà, ma vie est tracée, je travaillerai pas à l'étranger, j'aurai un emploi cool, mais bon, c'est comme ça. Et c'est vrai que c'est souvent, je me mettais des barrières comme ça, il faut pas... Et tu vois, avant, quand je consommais ton contenu, je me disais vraiment, je m'en rappelle, hein, ça fait longtemps, mais je me disais, oh là là, Safia, c'est fou ce qu'elle a réussi à créer quand même. Voilà, elle vit de son contenu et tout, c'est génial. Et au final, tu vois, un an et demi, deux ans, trois ans après, je suis dans ton podcast. Tu vois, ouais. Comme quoi, rien n'est... Quand on le veut, je pense, avec beaucoup de travail, beaucoup de détermination, garder les pieds sur terre également, c'est bien de vivre de sa passion, il faut quand même vérifier que ce soit faisable sur un plan économique, etc. Mais absolument rien n'est impossible, c'est tout à fait possible de passer de cabinet d'avocat à digital nomade, à vivre de son contenu, à créer un business en ligne, tu vois. Il faut pas se mettre de barrière en disant, moi je fais X, enfin je fais telle activité, tel métier, etc. J'ai telle situation, ouais mais ça va rien dire et vous serez peut-être surprise. En se lançant, on est surprise souvent de ce qu'on arrive à faire et au bout de 6 mois, 1 an, on fait le bilan et on se dit waouh. Et également, ne pas trop écouter l'entourage, c'est important de faire la part des choses, c'est super bien d'avoir un entourage qui fait des remarques constructives, etc., qui aide, qui met le haut là dès qu'il pense qu'on va droit dans le mur, etc., mais c'est super important aussi de s'écouter, de pas écouter les préjugés des gens, les préjugés qu'ont les gens sur l'entrepreneuriat, le freelancing, etc., et de se donner le droit d'oser, même si, voilà, même si l'entourage dit... voilà, oui. il faut quand même oser et on peut être surpris du résultat, vraiment.
Merci beaucoup.
Mais merci à toi, Safia.
J'espère que cet échange avec Maëlan vous aura plu et vous aura surtout reboosté. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez en savoir plus sur la Micropreneur Academy, n'hésitez pas à visiter le lien présent dans les notes de cet épisode ou sur My Trendy Lifestyle. Merci d'avoir écouté cet épisode de Build Yourself jusqu'à la fin. Vous retrouverez toutes les notes sur mytrendylifestyle.fr. Vous retrouverez les grandes lignes, un résumé. Si vous voulez rejoindre une communauté de femmes entrepreneurs et très ambitieuses, vous pouvez rejoindre Communauté Build Yourself, le groupe Facebook du podcast, des assidus du podcast. Le lien sera également disponible dans les notes. À très vite!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.